On est en train de faire une étude sur le retour de Jésus, puis voir dans la Bible les différents signes qui doivent s'accomplir avant que Jésus revienne. Ben, Jésus, quand il va revenir, comme je l'ai expliqué, son Église va avoir été sauvée, puis il vient pour nous enlever. Enlever tous ceux qui sont sauvés. Faut être prêt, puis faut pas manquer cette journée-là. C'est la journée la plus importante, prophétique, là, prophétiquement parlant. Oui, la venue de Jésus est annoncée, il est venu, voilà 2000 ans, c'était super, un jour extraordinaire, puis le fait qu'il vienne au monde, dans ce monde, puis qu'il paye la dette du péché, de l'humanité, puis qu'on puisse être sauvé, c'était grandiose. Mais il y a aussi un autre événement qui est autant grandiose, c'est lorsque Jésus reviendra pour venir chercher son Église. C'est une prophétie principale de l'Ancien et du Nouveau Testament à propos du Messie qui revient, mais il reviendra pas comme l'agneau de Dieu, il va revenir comme le lion de Juda. Il est couronné roi, puis il va prendre le contrôle de la planète, puis il va détruire les rebelles, puis il va venir chercher son Église. Puis il ne revient pas deux ou trois fois, il n'y a pas deux ou trois premières résurrections, il y en a juste une première résurrection, manque la peau, c'est à l'enlèvement du Seigneur. Mais on parle des signes qui doivent s'accomplir avant qu'il revienne. Puis il y a encore un autre signe qu'on va voir aujourd'hui, qui j'en ai parlé un petit peu au début de la réunion, à propos de la conversion des 144 000 qu'on voit dans la Bible. Il y a plusieurs interprétations que les gens ont faites là-dessus, mais moi j'interpréterai pas, je vais juste lire des versets en vous expliquant le verset. Puis vous allez voir que le Seigneur parle. Puis ça, cette conversion-là des 144 000, ça va être pendant la grande tribulation, avant le retour de Jésus. Puis si vous allez lire ce passage-là dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, au chapitre 7, vous allez voir qu'il parle des 144 000, puis il parle aussi d'une multitude innombrable de toute tribu, tout peuple, toute langue, de toute nation, qui sont sauvés, puis pendant la grande tribulation. C'est écrit tel quel, où est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent la grande tribulation. Tout le chapitre, ça l'explique des Juifs et les païens. C'est qui ça, les païens? C'est nous autres. Fait que on fait partie de ceux qui sont là pendant la grande tribulation, puis qui vont passer à travers avant que Jésus revienne. Il va avoir un grand réveil, puis il faut s'attendre à ça. Autant que j'ai parlé qu'il y aurait une apostasie, il y a des gens de l'Église qui vont abandonner, mais pendant la grande tribulation, pendant le règne de l'Antéchrist, qui va durer 3 ans et demi, il va avoir aussi un réveil. On va regarder ces choses-là ensemble. On va regarder aujourd'hui ensemble un mystère qui est révélé par Dieu au sujet du peuple d'Israël. Parce que c'est un mystère. C'était pas compris dans ce temps-là. Mais Jésus, quand il est venu, ça nous dit clairement que Jésus avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus nous a dit ça dans Matthieu 15, 24. Il dit, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Le but, pourquoi que Jésus est venu sur cette terre, c'était pour sauver les Juifs principalement. Ben les Juifs, quand je dis les Juifs, c'est pas juste Juifs, le peuple d'Israël. Parce que je sais pas si j'ai déjà expliqué c'est quoi la différence. Les Juifs, ça a rapport à la tribu de Juda, parce qu'il y avait eu une séparation. Il y avait la tribu de Juda avec une autre tribu, puis la moitié d'un autre qui était séparée du reste des 10 autres tribus ennemies, qui était le peuple d'Israël. Mais l'ensemble, c'est les fils d'Israël. C'est tous des descendants d'Israël qui comprennent les Juifs, qui sont la tribu de Juda, parce que le mot Juda veut dire, le mot Juif vient du mot Juda. C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais en réalité, quand on parle du réveil des 144 000, c'est 144 000 descendants d'Israël qui sont formés de Juifs et du peuple d'Israël. Jésus a été envoyé qu'aux brebis perdues. Ça veut dire qu'il cherchait les brebis perdues. Jésus l'a expliqué, il dit, c'est pas tous ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades. Fallait que ça soit une brebis perdue. C'est quoi une brebis perdue? C'est quelqu'un qui se sent perdu. C'est quelqu'un qui sait qu'il est pécheur. Si les personnes ne s'avouent pas pécheurs, ils n'ont pas besoin d'un sauveur. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin, mais ils savent pas qu'ils en ont besoin. Si tu veux pas avouer que tu es pécheur, ben tu sentiras pas le besoin d'avoir besoin d'un sauveur. Mais Jésus est venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Son ministère était axé vers les Juifs, vers le peuple d'Israël. Mais l'apôtre Paul y explique le pourquoi que c'est pas tout le peuple d'Israël qui s'est tourné vers leur Messie. Parce qu'on le voit clairement qu'au début, dans les Actes des Apôtres, il y en a eu 3 000, il y en a eu 5 000, mais c'était pas tout le peuple d'Israël qui a reçu le message. Il y a juste les ceux qui ont avoué qu'ils étaient des brebis perdues, puis qui ont été à Jésus pour le recevoir. Mais pourquoi que c'est pas tout le monde qui l'a reçu parmi les Juifs? Mais dans Romains 11:11, l'apôtre Paul nous l'explique, il a envoyé quelques passages, l'apôtre Paul, il dit « Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, en parlant des Juifs qui n'ont pas répondu à l'appel du salut, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. » Fait que même si Jésus avait été envoyé principalement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il y a eu un endurcissement du peuple juif, d'une partie du peuple juif, dans le but de rendre le salut accessible aux païens. C'est qui ça? C'est à nous. Parce que nous, on n'était pas destinés à recevoir la bénédiction d'Abraham. On n'était pas des Juifs. C'était pour on n'était pas du peuple d'Israël, on n'était pas les circoncis qui suivaient le Seigneur. La promesse était pour les descendants d'Abraham, mais le peuple, c'était dans le plan de Dieu qu'il y a une partie des Juifs qui refusent pour nous rendre le salut accessible à nous. C'est pour ça que là, il y a eu beaucoup de païens qui se sont convertis, il y a beaucoup d'églises païennes dans le territoire de l'Empire romain qui ont été formées de gens comme nous, des non-juifs, des noms du peuple d'Israël, qui ont pu être sauvés quand même. Paul, il continue, dans à l'autre verset, il va dire que l'espérance que Paul y avait, lui, c'est qu'un jour qu'ils se convertissent tous. Lui, il travaillait au salut aussi des Juifs, puis il aurait aimé ça que tout le monde se convertisse. C'était son espoir. Il dit dans le prochain verset, si leur chute a été la richesse du monde, bien, leur amoindrissement, ça a été la richesse des païens. Fait que si on est enrichi des richesses, des bénédictions de Dieu, c'est à cause qu'eux autres l'ont refusé. Mais là, il dit, comment que ça va être de plus? Il dit, combien plus en sera-t-il ainsi quand qu'ils se convertiront tous? Fait que son espoir à l'apôtre Paul, c'est qu'il aurait aimé voir tout le peuple d'Israël puisse se convertir au Seigneur. C'était son travail, c'était ses prières, puis c'était dans son message qu'il nous laisse aujourd'hui, qu'on peut lire aujourd'hui dans la parole. Mais l'apôtre Paul, il nous explique ce mystère-là, que l'endurcissement d'une partie du peuple d'Israël, ça a permis l'entrée des païens qui devaient être sauvés, c'est-à-dire nous. Si on est sauvés aujourd'hui, c'est parce que le peuple d'Israël, ils n'ont pas répondu à l'appel. Ça permet de cette façon-là, ainsi, de former l'Israël de Dieu. On voit que là-dedans, que le salut est pour tous. Dans Romains 11, 25 et 26, regardez bien. Car je veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. On parle d'un mystère. C'est quelque chose qui était dur à comprendre dans ce temps-là. Afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël y est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, la totalité des païens qui étaient appelés, que Dieu savait d'avance dans sa préscience que ces gens-là répondraient. Parce que c'est pas tous les païens qui vont être sauvés. Mais il y a une partie de Juifs qui a été sauvée, une partie s'est endurcie, ça permet à nous qu'on puisse entrer la totalité des païens, puis ainsi, de cette façon-là, tout Israël sera sauvé. Ça veut dire que le vrai Israël de Dieu, l'Israël spirituel devant Dieu, c'est formé de Juifs et de païens. Le vrai Israël de Dieu, c'est tout le monde sur la planète peut faire partie de l'Israël de Dieu s'il se tourne vers le Messie. Et ainsi, avec une partie des Juifs puis l'ensemble des païens, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, puis il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. L'alliance que Dieu fait, c'est une question de nous purifier de nos péchés. Puis comment est-ce qu'on peut être purifié de nos péchés? C'est en acceptant Jésus. La Bible dit que c'est le sang de Jésus, son Fils, qui nous purifie de toute iniquité. Son sang qui était versé à la croix, c'était le sang de Dieu, fait homme, qui était un homme sans péché, mais qui était Dieu à l'intérieur, qui venait visiter ses créatures, puis a décidé de mourir puis de verser son sang comme étant l'agneau de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le monde allait offrir des sacrifices d'agneau animal pour être pardonné en offrant, en tuant l'agneau, il prenait le sang, puis il mettait le sang sur l'autel. C'est comme si le péché de la personne t'a purifié par le sang de cet animal-là, parce que l'animal a payé de sa vie la conséquence du péché de cet être, de l'être humain qui allait apporter l'agneau en remplacement de sa vie. L'agneau donnait sa vie en remplacement pour payer la dette de la personne, la dette de ses péchés. Mais Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu pour verser son sang, pour payer la dette de l'humanité entière. Ça veut dire, peu importe que tu sois un juif ou un païen, tu peux aller à Jésus pour recevoir le pardon de tes péchés, puis entrer dans cette nouvelle alliance que Dieu va faire avec toi, qui est déjà faite, tout est déjà accompli. On a juste à le saisir par la foi, puis d'y croire, puis de s'engager à le suivre pour marcher avec lui, pour demeurer en lui. Ça, c'est aussi important de marcher en lui jusqu'à la fin de notre vie, à ne pas l'abandonner, puis à ne pas marcher dans un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Malgré le fait qu'il y a eu un endurcissement du peuple d'Israël, ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas en sauver plus. Dieu, il aime la descendance d'Israël à cause d'Abraham. Il avait fait des promesses pour le peuple d'Israël, comme qu'il en a fait aussi pour toutes les nations. Mais Paul, il dit que Isaïe a prophétisé aussi que ce serait qu'une partie du peuple d'Israël qui serait sauvée. On va le voir dans le prochain verset, mais c'est, regardez bien ce qui est écrit. Isaïe, de son côté, dans Romains 9, 27 à 29, ça nous dit, il s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » C'est clair que ce ne sera pas tous les Juifs. La preuve, il y a beaucoup de Juifs depuis le début qui n'ont pas cru au Messie puis ils ne sont pas sauvés. Il y a juste un reste qui est sauvé parce que le Seigneur les aime. Car le Seigneur exécutera pleinement, promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, puis nous aurions été semblables à Gomorre. Pourquoi que ça nous dit cela comme ça, bien qu'ils ont reçu les promesses, c'est que ce peuple-là a rejeté le Messie, puis ils l'ont mis à mort. En réalité, il n'y a pas un seul du peuple juif qui méritait la promesse. S'il y en a qui sont sauvés parmi le peuple juif, c'est parce que Dieu les a accordé miséricorde. Puis si Dieu ne les aura pas gardé une partie du peuple juif sauvé, mais il sera devenu comme Sodome et Gomorre qui ont été anéantis. C'est par grâce que Dieu les a accordé qu'il y ait une partie, un reste qui soit sauvé. On va regarder d'autres paroles prophétiques qui annoncent qu'un jour, qu'il y aura un réveil pour le salut des Juifs. Malgré le fait qu'à travers les temps, on n'a pas vu gros de Juifs qui se sont convertis. Il y a eu la totalité des païens qui se sont... Là, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de gens païens sauvés que de Juifs. C'est sûr qu'il y a toujours eu plus de monde sur la terre que le peuple juif. C'était un petit peuple, mais quand même... Il y a eu beaucoup plus de païens qui sont sauvés et qui vont rentrer dans la vie éternelle que le peuple juif. Mais Dieu ne les a pas oubliés parce qu'on va voir des passages dans la Bible que les Juifs, à la fin des temps, ils vont reconnaître le vrai Messie, Yeshua, le Christ, puis ils vont se convertir au Seigneur. L'apôtre Jean, il a vu une vision de la conversion d'une multitude du peuple d'Israël avant le retour de Jésus pour l'enlèvement. Dans Apocalypse, chapitre 7, les versets 4 à 8. Là, on va voir comme une vision d'une multitude du peuple juif qui se tiennent devant le trône. Il dit, « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. » Là, c'était le sceau de Dieu. Parce que si on lit le passage avant, ça nous parle d'un ange qui devait marquer du sceau de Dieu tous les ceux qui appartiennent à Dieu. Fait qu'il y a, les ceux qui ont entendu le nombre, ça dit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On voit là-dedans que Dieu, il a en prévision qu'une multitude de Juifs va se convertir avant que Jésus revienne. Puis là, il leur dit, si on continue, il dit, faites pas de mal. Il avait dit aux anges de pas faire de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. On voit que Dieu, à un moment donné, va déverser des fléaux sur la végétation de la planète, puis par le feu, puis tout le kit. Mais il dit, faites pas tout de suite le mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On voit là-dedans, c'est des Juifs qui vont être marqués du sceau, que le sceau du Saint-Esprit, parce que la Bible a dit que dans un autre passage, dans 2 Corinthiens 1, 22, que nous aussi, on était marqués du sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Un acompte que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Fait qu'eux autres vont recevoir la même chose que qu'est-ce que nous, on a reçu. D'être sauvés, d'avoir le Saint-Esprit, puis ils sont devenus des serviteurs de Dieu. 144 000 personnes. Mais là, il dit, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Là, il nous dit, de la tribu de Juda, 12 000. Là, il nomme toutes les 12 tribus. Mais on va voir dans la Bible, par un autre passage plus tard, dans l'étude, tantôt, je vais vous le dire, que c'est pas le vrai chiffre, 144 000. C'est un chiffre fictif pour désigner une multitude. Puis vous allez le voir dans un autre passage, combien de personnes que Dieu parle, qui prévoit, qui va sauver. Comme je vous disais, ces gens-là, c'est des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit, puis qui vont être appelés des serviteurs du Dieu vivant. Comme nous, comme je l'ai dit tantôt, dans 2 Corinthiens 1, 22, ça dit, nous aussi, on était marqués du sceau. Quand tu es chrétien, tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te donne son esprit. Il te met un sceau, c'est un étampe qui te met dans le front. C'est écrit dans notre passage, dans un autre passage, qui te donne dans le front. Ça va être propriété privée de Dieu. C'est ça que ça veut dire, le sceau. On appartient à Dieu. On est ses enfants. On est sauvés. Il nous donne son Saint-Esprit. On lui appartient. Puis là, il dit... Fais pas trop de fléaux, il dit aux anges, faites pas de fléaux, là, je veux marquer tout le monde. Puis là, il y a eu le salut de 144 000 personnes qui vont se tenir devant Dieu, puis vont servir Dieu. C'est des serviteurs de Dieu, la même chose que nous. Parce que, je vous dis ça, parce qu'il y a des doctrines qu'on entend souvent, ils disent que l'enlèvement va arriver avant, puis le Saint-Esprit va être enlevé, puis qu'après ça, il va y avoir des gens sauvés. C'est impossible d'être sauvé sans le Saint-Esprit. Faut que tu reçoives la nouvelle naissance pour être sauvé. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est de recevoir le Saint-Esprit. Naître de nouveau, c'est qu'à un moment donné, tu te repens, tu demandes pardon au Seigneur, puis tu confesses que tu crois qu'il est mort pour te pardonner, puis tu demandes son Saint-Esprit. Quand il rentre dans ta vie commence à changer. Il te parle, puis il te montre des affaires dans la Bible, puis il y a des affaires que tu peux abandonner dans ta vie, des choses, tu es appogné là-dedans, puis le Saint-Esprit te libère. Tout le cheminement de la vie chrétienne est fait par la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais eux autres, ils vont recevoir le sceau de Dieu, puis ils sont des serviteurs de Dieu, puis il n'y aura pas d'enlèvement avant cela, puis que le Saint-Esprit soit parti. Pendant cette période-là, mais le Saint-Esprit est encore bien là. Puis ils vont être comme nous. Cet événement-là, que des 144 000 Juifs qui vont être sauvés, ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est dans ces versets-là, dans l'Ancien, qu'on va découvrir des choses. Dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 10 et 11. « Dieu, si vous voulez, vous y irez chez vous, tout le avant, puis vous allez voir, je ne lirai pas tous les versets dans ce texte-là. Il y a au moins 2-3 chapitres qui en parlent de ces événements-là. Allez lire tout cela, mais je vais vous sortir les versets qui ont rapport avec cet événement-là que Dieu se propose de sauver un reste de plus du peuple juif. Il dit alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est quoi ça, un esprit de grâce et de supplication? C'est le Saint-Esprit qui va venir sur le peuple juif, parce que là, si on parle de le peuple d'Israël, là, la maison de David, puis il va répandre son esprit, puis ça va amener comme si Dieu veut leur faire un cadeau. Un esprit qui les amène à la grâce. C'est un cadeau, la grâce. Puis de supplication, c'est que les gens vont comprendre des choses, puis ils vont se mettre à supplier Dieu, demander pardon à Dieu, puis reconnaître ce que Dieu a fait, puis ils vont reconnaître le Messie. Ils vont vouloir se convertir. Vous allez voir cela dans ces versets-là. Dieu va envoyer un esprit de grâce et de supplication sur le peuple d'Israël. Ils se tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est qui ça que le peuple juif a percé? Yeshua le Messie. Ils vont reconnaître Jésus. C'est quelque chose, cette prophétie-là. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ces gens-là vont être dans la repentance réelle, dans les pleurs. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des Juifs se rebellent encore. On a beau parler du Seigneur aux Juifs, il y en a des Juifs de sauvés présentement, du peuple d'Israël qui sont sauvés. Mais il n'y en a pas beaucoup, quelques milliers. Mais il va y avoir une multitude qui va se convertir vers la période de l'Antéchrist. Vous allez voir pourquoi je dis ça, que c'est la période de l'Antéchrist. Ça, je vais vous donner le verset dans l'étude tantôt. Ils vont pleurer sur Jésus comme on pleure un fils unique. C'est le même qui est appelé Jésus. C'est le fils unique de Dieu. Quand dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique ». Dieu, il n'y a pas beaucoup de fils. Il n'avait juste un. C'est le fils unique. Les autres sont devenus fils par adoption. Dieu n'a fait juste un Messie sur la planète. Il a créé un seul individu dans le sens, je parle pas créer en tant que, il a créé tout ce qui est vivant. Ça, je le sais, mais en parlant d'envoyer son fils, il y en a juste un, son fils unique. Puis les Juifs vont le pleurer comme étant on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Puis ça nous dit dans le Nouveau Testament que Jésus, c'est le premier-né de toute la création. Quand on dit premier-né, ça veut pas dire que c'est le premier qui a été mis au monde. Le premier-né d'une famille, c'est l'héritier, celui qui doit hériter de tout ce qui appartient au Père. C'est Jésus qui est le premier-né, qui doit tout hériter, sauf que Jésus a décidé de partager son héritage avec ses enfants adoptés, c'est-à-dire nous. On était adoptés, on est devenus des enfants de Dieu, nous aussi. Fait qu'on va, Jésus va partager son héritage, on est devenus des co-héritiers. Mais le Fils unique, le premier-né, c'était Jésus tout seul qui devait tout hériter. Voyez-vous? Puis là, ça nous dit au verset 11, « En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. » Parce qu'ils vont reconnaître, « Qu'est-ce qu'on a fait là, d'avoir crucifié le Messie, puis on n'a pas cru en lui pendant les 2000 ans d'histoire. Il n'y a presque pas de Juifs du peuple d'Israël qui ont cru en lui. » Puis ils vont se repentir, puis ils vont se tourner vers Jésus, puis ils vont donner leur vie au Seigneur, ils vont devenir des serviteurs de Dieu. C'est un réveil que Dieu veut faire parmi le peuple juif, parce que Dieu se souvient des promesses qu'il a faites à Abraham. Il aime Abraham, il aime quand même le peuple juif, même s'ils sont rebelles, mais il s'attend à ce qu'il y en ait qui se convertissent. Puis ça dit, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose parce qu'on n'est pas au courant de cela, mais dans ce temps-là, quand la prophétie a sorti, Hadad Rimon, c'était un faux dieu, c'était une divinité phénicienne de la végétation qui était censée mourir à la fin des récoltes pour renaître à la période des pluies. Puis, dans ce temps-là, il était probable qu'il y avait un culte qui était rendu à cette déesse-là par les Juifs, qui était particulièrement développé dans la vallée de Megiddo. Puis, il faisait un deuil, puis... À tous les fois, à l'automne, probablement, mais ce rituel-là, on le connaît pas parce qu'on n'est pas trempé dans le fausseté, parce que ça, c'est un faux dieu, bien entendu, dans l'idolâtrie du peuple juif, puis des cultes païens qu'il y avait autour, mais il se passait cette chose-là, puis ça nous dit que le deuil à Jérusalem va être aussi gros que le deuil qu'il faisait pour ce faux dieu-là. Ça va être quelque chose de remarquable, de quelque chose de connu à travers la planète. La prophétie de Zacharie dépeint la grandeur du deuil dans lequel sera plongé Israël, quand ils ouvriront leurs yeux sur le rejet et le meurtre de leur Messie. Ils vont cliquer puis ils vont comprendre. Comment ça se fait qu'ils vont cliquer puis qu'ils vont comprendre? C'est parce que Dieu va envoyer un esprit de grâce. Il va leur accorder la grâce de pouvoir retourner à l'Éternel, l'esprit de supplication. Les gens vont tomber en repentance par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être saisi par le Saint-Esprit puis vous mettre à pleurer. Ben moi, ça m'est déjà arrivé à une couple de fois. Puis ça, là, c'est que t'es pas capable d'arrêter ça tout seul. C'est, tu pleures, puis c'est le Saint-Esprit qui t'amène à pleurer sur quelque chose. Mais il va se produire la même chose parmi le peuple juif, puis il va en avoir une multitude qui va se tourner vers le Seigneur. Dans Zacharie 12, les versets 12 à 14, ça dit, « Le pays sera dans le deuil. » Voyez-vous, prophétiquement, c'est important que le peuple d'Israël ait repris leur pays. Parce que ça va arriver avant que Jésus revienne. Puis il fallait que le pays soit déjà encore entre les mains du peuple d'Israël. Faut pas oublier que ça fait 2000 ans qu'il n'était plus dans les mains du peuple d'Israël, ce territoire-là. Ça fait rien que depuis 1948 ou 49, là, que ça leur a été accordé de pouvoir retourner à Jérusalem, puis se rebâtir, reprendre place, puis là, le territoire s'agrandit, puis faut pas oublier que quelque chose qui s'en vient aussi la semaine prochaine, que le premier ministre des États, là, Trump, il va faire signer un traité de paix à Jérusalem, la paix entre les Juifs puis les tribus arabes, pour qu'il y ait une paix dans ce coin-là. Fait qu'on est rendu probablement au message prophétique qui parle du traité de paix, que les gens vont dire paix, paix et sûreté par la puissance mondiale qui est là pour faire imposer cela. C'est peut-être, on est peut-être arrivé pas mal plus proche de la fin qu'on pense. Il fallait que ça l'arrive. C'est prophétisé dans la Bible, ça avec, mais on peut pas dire que c'est réellement ce shot-là, parce que des fois, il peut se passer des affaires puis que ça soit un autre qui le fasse. Mais en tout cas, préparez-vous. Il faut que vous soyez en règle avec le Seigneur parce que la fin est proche. Ça nous dit que le pays va être dans le deuil. Chaque famille séparément, là il parle des familles, la famille de David, les femmes à part, les familles de la maison de Nathan. Puis là, il nomme des personnages, il nomme des maisons, la maison de Lévi, les femmes à part. Puis pour dire que les gens, c'est pas parce que l'autre s'est converti que l'autre le fait juste pour imiter l'autre. C'est vraiment de quoi qui va se produire séparément par l'Esprit de Dieu, puis que les gens vont se repentir partout. C'est comme si un retour à la vérité va se faire, que la vérité de la nouvelle alliance par le Messie, qui est prêché depuis 2000 ans, mais qu'eux autres ont toujours refusé. Ils ont crucifié le Messie, puis ils ont aussi rejeté la nouvelle alliance. Ils marchent encore dans l'ancienne alliance qu'ils peuvent pas pratiquer parce qu'il n'y a plus de temple pour offrir des sacrifices comme Dieu l'avait demandé. Fait que toute leur religion, en fin de compte, ne tient pas debout de la façon de pratiquer la religion juive. Si tu veux suivre la religion juive comme c'était dans ce temps-là, tu peux plus le faire, il n'y a même plus de temple. Fait que l'idée, c'est qu'ils vont abandonner cela, Dieu va leur faire comprendre qu'ils se tournent vers Jésus, puis ils vont le pleurer. Puis ils vont un réveil parmi toutes les familles. Au verset 14, toutes les autres familles, chaque famille séparément, un réveil. Comme qu'on voudrait qu'il arrive aussi parmi les païens. Est-ce qu'on veut aussi un réveil parmi les païens? Est-ce qu'on veut que nos familles, nos amis, nos voisins, nos compagnons de travail, nos compatriotes, les habitants de notre ville, de notre province, de notre pays soient sauvés? Oui, on veut cela, mais Dieu va le faire, qu'il va en avoir une multitude qui va se sauver. Si vous allez lire dans l'Apocalypse, au chapitre 7, quand il parle des 144 000, tout de suite, l'autre paragraphe après, et j'ai vu une foule nombreuse de toute tribu, tout peuple, toute langue, de toute nation qui vont être sauvés. C'est les païens. De tout, il va avoir un réveil. Puis où est-ce qu'ils viennent? Ça le dit clairement dans ce texte-là, qui est dans le même paragraphe. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Puis là, ils suivent l'agneau partout où il va. Mais il va y avoir un réveil aussi parmi les gens dans le monde. On doit s'attendre à ce que Dieu souffle ce réveil-là, même parmi les Canadiens. Amen. Amen. Les Américains. Amen. Tous les peuples, il va y avoir du monde sauvé de tous les peuples, toutes tribus, toutes langues, toutes nations et des Juifs dans la période de la grande tribulation. C'est pas moi qui invente ça, c'est écrit noir sur blanc. Gloire à Dieu. Les Juifs seront sauvés, ils seront purifiés par un vent de repentance et de sanctification. Dans Zacharie chapitre 13 et versets 1 et 2. En ce jour-là, une source sera ouverte, c'est la source du salut, pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Voyez-vous, le sacrifice de Jésus, c'est vraiment pour régler quelque chose qui est grave aux yeux de Dieu. Le péché puis les impuretés. Dieu a en horreur les péchés. Faut pas penser que quand on compte une menterie, que Dieu trouve ça drôle. C'est un des 10 commandements de Dieu. Peu importe le péché qu'on est en train de faire là dans les commandements puis dans la parole du Seigneur dans le Nouveau Testament, peu importe le péché qu'on est en train de faire, Dieu s'en horreur puis il veut que ça arrête. C'est tous des péchés puis des impuretés devant Dieu, des choses laides que ça l'a coûté la vie de son Fils pour régler ce problème-là. Puis là, Dieu, il va envoyer une source de salut pour le péché et l'impureté, parce que Dieu veut pas juste le pardonner, il veut les purifier, il veut nous purifier. Purifier, c'est qu'on arrête de pécher, c'est le but. Il veut qu'on arrête de pécher, il veut qu'on arrête de se rendre impur par des choses impures. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, on voit des exemples de la pureté que Dieu va rétablir. J'exterminerai du pays les noms des idoles. Une des choses que Dieu va faire, il ne faut pas dire ça après bien, puis il ne les a pas toutes nommées, il y en aura trop écrit quel genre de péché que Dieu veut régler. Mais un, entre autres, dans ses commandements, c'est quand que les gens ont des idoles. D'autres dieux, des faux dieux, des religions, des quelque chose qui passera avant Dieu. C'est toutes des idoles, que ce soit même des fois ça peut être un humain qui est un idole, ça peut être une statue, une photo, une image, un faux dieu. C'est toutes sortes de choses qui sont appelées devant Dieu des idoles. Dieu, dans sa purification, va pardonner, mais il va aussi purifier le pays, il n'aura plus d'idoles dans le pays d'Israël parmi son peuple. Afin qu'on n'en s'en souvienne plus, il va les enlever pour qu'on même plus on y pense. Il jôterait aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Les prophètes, on ne parle pas des prophètes de Dieu qui vont ôter, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes qui prophétisent dans le nom de ces idoles-là, de ces fausses religions-là. Il va cleaner le pays d'Israël. Puis il va ôter aussi l'esprit d'impureté. C'est quoi l'esprit d'impureté, vous pensez? J'en ai parlé la semaine passée quand j'ai parlé de la grande Babylone. La mère des impudicités puis des abominations de la terre. Cet esprit d'impureté-là qui emmène le monde entier à se prostituer puis à vivre dans la débauche, à vivre dans le péché. Ça, c'est un esprit qui amène le monde dans la corruption puis à souiller devant Dieu puis à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu va purifier ça aussi. Ce peuple-là, là, qui va se convertir au Seigneur, ils vont être consacrés au Seigneur puis ils vont marcher dans la sainteté devant Dieu. Tiens, amen. Le prophète Zacharie avait prédit, écoutez bien celle-là, que le un tiers du peuple d'Israël se convertirait et qu'il serait purifié par le Saint-Esprit. Dans Zacharie 13, les versets 8 à 9, il dit, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, ils périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Combien de personnes qui vont se convertir? Un tiers du peuple d'Israël. Dans l'Apocalypse, il disait 144 000, mais c'est un symbole. Il va en avoir une multitude. Il y en a bien plus que ça des vivants du peuple juif présentement. Puis il va en sauver le un tiers comme un reste à cause de l'élection, à cause que Dieu aimait Abraham. Ils vont trouver grâce, puis Dieu va leur souffler cette grâce, puis en eux la supplication pour se tourner vers l'Éternel, puis ils vont se faire purifier par Dieu, puis ils vont marcher dans la sainteté, comme que Dieu s'attend aussi de chacun de nous. Faut pas penser, c'est rien que pour eux autres, la marche dans sanctification. Toute la Bible n'en parle aussi pour nous, que Dieu veut qu'on sorte de nos souillures, qu'on arrête de pécher. Si on regarde la dernière vision de l'Apocalypse, parce que dans l'Apocalypse, il en parle à deux endroits des 144 000. Si on regarde dans l'Apocalypse au chapitre 14, on voit qu'ils étaient marqués du sceau de Dieu, comme qu'on le voit dans le chapitre 7. Il dit, « Regardez, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Quand tu as le sceau de Dieu, tu appartiens à Dieu, le nom de Dieu est là, puis le nom du Fils, Jésus-Christ, Yeshua, Yamashia, le Messie, ils sont identifiés comme appartenant à Dieu. Puis on voit dans le prochain verset que tous ensemble, ces gens-là consacrés, sanctifiés, ils célébraient les louanges de l'agneau de Dieu, leur sauveur. La même chose qu'on fait nous autres aujourd'hui quand on loue le Seigneur par les chants. Dans Apocalypse 14, le verset 2 et 3, il dit, « J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça parle de non seulement ils sont engagés à sanctifier devant le Seigneur, mais c'est des gens tournés à vouloir louer Dieu, louer le Seigneur comme nous on le fait depuis des milliers d'années, 2000 ans au moins, que des chrétiens qui chantent des cantiques, célèbrent le Seigneur. Ça existait dans le temps des apôtres, ça existe encore aujourd'hui. Ils vont se tourner vers le Seigneur, puis ils vont se consacrer au Seigneur, puis ils vont marcher avec le Seigneur, puis ils vont suivre le Seigneur, puis ils vont être des gens qui louent le Seigneur, parce qu'ils ont été rachetés de la terre, comme nous, on a été rachetés de la terre. Ils suivent le Seigneur, ils marchent dans la sainteté et dans la vérité. Ils sont une offrande à Dieu. On voit ça dans les versets suivants, Apocalypse 14, 4 et 5. Ce sont ceux qui se sont pas souillés avec des femmes. On voit que c'est des gens consacrés qui marchent pas dans le péché, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est des gens engagés. Si le Saint-Esprit le monde fasse là, ils vont le faire. Ils vont s'engager à suivre le Seigneur, comme tout disciple du Seigneur devrait être en train de faire. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices. C'est ça qui est l'idée, qui sont une offrande à Dieu. Les prémices, dans ce temps-là, parce qu'il y avait des prémices, ils prenaient une partie des récoltes puis les offraient à Dieu comme si ça l'appartenait à Dieu. C'est un offrande à Dieu. Mais ces gens-là, cette masse-là de Juifs qui va se convertir, un tiers du peuple juif, ils vont être des prémices offertes à Dieu pour servir le Seigneur puis louer le Seigneur. Ça nous dit, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est des gens, comme je vous disais tantôt, extrêmement consacrés au Seigneur. Puis je veux finir avec un dernier verset, dans Zacharie 14. C'est encore dans le même texte, mais au chapitre 14. Non, c'est Zacharie 14. C'est pas le même texte que ce chapitre-là. C'est dans Zacharie tantôt. Là, on était dans l'Apocalypse, mais tantôt, je parlais de Zacharie au chapitre 13. Mais au chapitre 14, nous parle encore de cela. Puis je vais finir avec ce verset-là. Ça nous dit, voici, là, ça nous parle de l'enlèvement. Le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Parce qu'on l'a dit tantôt, il y en aura deux tiers qui sera exterminé, il y en aura un tiers qui sera converti. Fait que les deux tiers qui sont, il va y avoir une guerre incroyable, puis il va y avoir des choses graves qui vont se produire à cette époque-là, quand Jésus va revenir. C'est la guerre d'Armageddon. Puis on va voir là-dedans qu'est-ce que Dieu parle. Au verset 2, il dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Ça, c'est avant, juste qu'ils reviennent, là. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Là, c'est l'enlèvement. C'est Jésus qui paraît du ciel. Puis il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Ça, c'est après, parce que j'ai lu tout à l'heure la conversion au chapitre 13. Là, on est rendu au chapitre 14. Il dit, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, puis se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, puis une autre moitié vers le midi. Il va se produire une grande séparation dans la montagne, puis le peuple sauvé, il va pouvoir passer à travers cette montagne-là. Puis Jésus revient pour chercher ses enfants. Fait que, comment que ça va se dérouler, détail par détail, on n'a pas tous les détails, mais ça parle du retour de Jésus après la conversion, comme que dans l'Apocalypse, c'est écrit les 144 000, puis la multitude qui viennent de la grande tribulation. Il faut s'attendre à toutes ces choses-là que ça arrive avant que Jésus revienne. Voyez-vous? Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est à comprendre la conversion des 144 000 avant le retour de Jésus. Mais le Seigneur ne veut pas juste les 144 000. Il veut aussi la multitude de toutes les nations. Puis c'est ce qu'on veut aussi. J'espère qu'on veut que les gens soient sauvés. Si les gens viennent au Seigneur, c'est parce que Dieu a pitié d'eux, puis il leur fait comprendre le message. Puis on espère toujours que ceux qui entendent la voix du Seigneur, mais qui ne résistent pas. Parce que ça le dit aussi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Faut se tourner vers le Seigneur. Répondre à l'appel. Suite, Seigneur, je le sais que tu es là. Je le sais que tu es vivant. Je le sais que tu es mort sur la croix. Je veux te suivre. Si tu comprends cela, là, faut que tu répondes tout de suite. Seigneur, je veux te suivre. Parce que quand on laisse passer les convictions, on ne sait pas quand que ça revient. Puis peut-être ça revient pas, les convictions. C'est le Saint-Esprit qui fait un appel quand on a une conviction de salut, une conviction de péché, conviction que le sacrifice de Jésus, conviction, on est convaincu que c'est là, que ça existe. Résistons pas, soumettons-nous au Seigneur, acceptons sa seigneurie, marchons dans sainteté à l'exemple de ces gens-là, marchons dans pureté, marchons dans l'obéissance, jusqu'à temps qu'ils reviennent. On va faire partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle avec lui. Je vais faire une prière pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui réalisent puis qui veulent le faire le pas. Ça n'a pas rapport aux autres personnes, ça a rapport à vous personnellement qui entendez ce message, que ce soit ici ou sur Internet. Si vous sentez que vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur, vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne sentez pas cette paix-là qui vient de Dieu, il est toujours temps de revenir au Seigneur. Puis si on se dit, j'ai fait tellement de péchés, j'ai rejeté le Seigneur, puis je me suis détourné, peu importe ce qu'on a fait, c'est comme l'enfant prodige. Il peut revenir au Père, puis le Père va lui pardonner, puis le Père va lui donner une bague comme en signe d'alliance, puis Dieu va te donner une robe blanche pour démontrer que tu es purifié. C'est ce qu'il a fait dans la parabole pour l'enfant prodige qui est retourné. Quand on s'éloigne du Seigneur, on peut revenir. Puis on a juste à confesser notre état, puis de confesser qu'on croit que Jésus, c'est le Messie, puis on s'engage à le suivre, puis le Seigneur va te pardonner, puis il va te donner son Saint-Esprit, puis il y a une vie nouvelle qui va commencer avec lui. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Amen.